autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous demander quelle était la place et le statut des enfants dans les sociétés du passé. Pourquoi faire l'archéologie de l'enfance et de la petite enfance? Et qu'est-ce que ça dit de nous et de notre humanité? Que révèlent les sites et les fouilles des sépultures de la préhistoire à nos jours? Pourquoi les archéologues qui les cherchent trouvent tant de traces de soins apportés aux tout-petits? Biberons préhistoriques, jouets antiques, de tout temps, tout lieu, contrairement à ce que l'on a longtemps voulu croire, les hommes et surtout les femmes ont protégé et soigné leurs petits si vulnérables et si précieux. Mais comment et jusqu'où? Car ce nouveau champ de recherche en archéologie de l'enfance exhume aussi les traces d'enfants esclaves, bagnards et travailleurs forcés de la révolution industrielle. Regard croisé de deux archéologues engagés, Valérie Delattre et Olivier Blin de l'INRAP, qui militent pour une archéologie de l'enfance. C'est le titre du numéro de la revue Les Nouvelles de l'archéologie qu'ils ont dirigé. Passionnant et bouleversant autour de la question « Pourquoi une archéologie de l'enfance ?» Bienvenue autour de notre berceau commun.
Bienvenue à Fiana, bienvenue à bébé, bienvenue à Clara, bienvenue à bébé, bienvenue à Zeki, bienvenue à bébé.
Bienvenue à Bébé, les Apmamas sur RFI, ça me semblait de circonstance. Autour de notre question du jour, Valérie Delattre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager, j'ai envie de dire, une des révélations de ce nouveau champ de recherche, l'archéologie de l'enfance. C'est justement le soin apporté aux nouveau-nés, aux tout-petits. Vous en exhumez les traces finalement depuis toujours et à toutes les époques. Valérie, en tant qu'archéo-anthropologue, et ça change un peu la donne, en fait, nos idées reçues sur, justement, l'importance des tout-petits et des bébés.
Mais le tout-petit a longtemps été un grand invisible, alors qu'il était essentiel pour la démographie, pour la paléopathologie et pour la connaissance des sociétés. Alors, d'un point de vue strictement professionnel, cette classe d'âge est essentielle pour travailler sur les profils démographiques. Et pour un point de vue plus archéologique, ces petits, ces invisibles sont extrêmement présents. On les a souvent mis de côté, pensant qu'un enfant qui meurt est une habitude dans des sociétés qui ne sont pas vaccinées. Jusqu'au XVIIIe siècle et l'invention du vaccin par Jenner, un enfant sur quatre meurt à la naissance et un autre quart meurt au moment du sevrage, si tardif soit-il. Donc on a l'impression qu'il y a une économie un petit peu blasée de la toute petite enfance, alors que l'archéologie nous montre une surprotection. Cette période, elle est extrêmement vulnérable. On voit que les sociétés, y compris les plus anciennes, développent et déploient des soins attentifs pour permettre à ce tout petit de devenir un humain, un petit homme.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie vraiment de votre champ de recherche depuis de nombreuses années. Valérie Delattre, vous mettez au jour en tant qu'archéo-anthropologue. Vous avez fait de l'archéologie du soin, le soin apporté aux plus vulnérables, pionnière aussi de l'archéologie du handicap. Et donc maintenant, on comprend un peu mieux, on va y revenir, cette archéologie de l'enfance pour une archéologie de l'enfance. C'est le titre de ce numéro du printemps dernier, des Nouvelles de l'archéologie, que vous avez dirigé ensemble avec vous, Olivier Blin. Bonjour.
Et bonjour.
Alors, merci également d'être en direct avec nous pour partager, si j'ose dire, alors c'est un petit peu là de manière un peu partiale ou un peu manichéenne, le versant plus sombre aussi de cette archéologie de l'enfance, c'est-à-dire les traces d'enfants esclaves, ça se retrouve dans l'Antiquité, votre champ de recherche, mais aussi du travail forcé des enfants, notamment on y viendra, au début de l'ère industrielle, jusqu'aux enfants envoyés au bagne ou dans les effrayantes maisons de correction jusqu'au XXe siècle. Hein, ça, ce sont quoi ? Des des enfants oubliés, des martyrs au fond que vous remettez au jour?
Oui, alors disons que pour l'Antiquité ou pour les périodes anciennes, bien sûr, pour les périodes plus récentes comme la période industrielle ou pré-industrielle, il y a déjà beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur le sujet. Voilà, l'archéologie, elle permet un autre éclairage. Elle vient donner des éléments factuels, en fait, finalement, des éléments de situation de certains enfants dans un certain nombre de contextes. Si on revient, par exemple, sur les périodes anciennes, oui, on a des sites sur lesquels, et c'est surtout l'archéologie, l'archéologie funéraire en particulier, qui nous renseigne justement sur des activités qui semblent avoir été des activités, disons, un peu difficiles, voilà, avec des traces paléopathologiques bien spécifiques qui montrent que voilà, on a des enfants qui sont au travail et qui sont au travail très tôt.
Justement, vous dites très tôt, quand on parle d'enfance, d'archéologie de l'enfance, c'est quoi l'enfance? C'est-à-dire quand ça commence et quand ça s'arrête? Est-ce qu'on peut... Parce qu'il n'y a pas d'adolescence non plus pour les
époques. Il y a forcément une adolescence, mais alors...
Elle n'est pas prise en compte.
Elle n'est pas forcément prise en compte par l'archéologie, dans le sens où effectivement, on a souvent l'absence. Alors ça, c'est une des caractéristiques justement de cette archéologie, c'est que l'enfant finalement, dans le fond, est assez peu présent dans la trace archéologique. Mmh. Et c'est tout l'intérêt en fait finalement de se poser cette question, c'est observer en fait quel est le témoignage archéologique qui vient révéler en fait les données qui permettent de poser la question en fait de cette enfance à travers les sociétés.
Voilà. Alors, pourquoi on ne se l'est pas tellement posé. Enfin, les archéologues se la sont moins posés parce qu'ils n'apparaissent pas.
On se l'a c'est moins posé. C'est pas tellement ça. C'est que finalement, dans le fond, ça paraissait assez logique, hein, que les enfants soient intégrés dans la société un petit peu de manière comparative avec ce que l'on vit aujourd'hui, mm-hmm, et ou ce que l'on a vécu en fait la période moderne, entre guillemets. Alors, on reviendra sur l'archéologie ou en tout cas sur l'histoire industrielle parce que là, c'est un cas particulier. Mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est complètement différent et que peut-être aussi en fonction des catégories sociales.
Voilà.
On a des enfants qui, pour certains, sont mis au travail très tôt, 7-8 ans. Hein, on a des traces. Je ne sais pas si on peut déjà donner quelques exemples.
Si, bien
mais voilà.
Sûr.
Donc, par exemple, on a un site très, très célèbre qui est le site de Hallstatt qu'on évoque en fait dans ce numéro, sur lequel donc des fouilles ont eu lieu. Ce sont les fameuses mines de sel sur le village de Hallstatt en Autriche. On a fouillé ça au 19e siècle. On a trouvé des objets, on a trouvé des outils. Et depuis les années 70, 80, on revient sur ce mobilier archéologique ancien
qui date de l'âge du
Hallstatt, donc du tout début de l'âge du fer, à la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et donc, on revient sur ces mobiliers et on se rend compte en fait que les outils sont des outils adaptés pour les enfants. Ce sont des petits pics, ce sont des petits outils de carrière. On se rend compte que les vêtements qui ont été très très bien conservés dans ces mines de sel sont des vêtements d'enfants. Et quand on commence à reprendre en fait les données anthropologiques, on se rend compte que tous ces enfants présentent des traces d'usure osseuse, liées aussi à une usure musculaire, bien sûr.
Donc,
tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver chez des adultes qui ont été pendant de très longues années contraints à travailler dans les mines. Donc en fait, voilà, ça, ces éclairages-là, et c'est là où l'archéologie a son sens, c'est qu'elle apporte en fait finalement quelque chose de plus que la donnée archéologique qui peut être ancienne dans ce cas-là, qui peut être aussi plus récente. On a des exemples aujourd'hui, alors c'est peut-être moins évident, mais en archéologie industrielle, de traces.
On va y revenir sur cette archéologie
industrielle,
parce que les enfants étaient mis au travail, les enfants étaient esclaves, les enfants étaient dans les mines, et vous le précisez bien, vous le découvrez, parce qu'en fait, on revient sur ces outils qui sont petits, mais ce qu'on a découvert aussi, là on remonte l'archéologie de l'enfance, je me retourne vers vous Valérie Delattre, on a aussi découvert par exemple des espèces de biberons préhistoriques en céramique avec des traces de lait dedans, donc vraiment des traces, des objets pour prendre soin des nouveau-nés.
Déjà en anthropologie c'est très difficile de définir un enfant puisque l'immaturité biologique elle va au-delà de 22 ans, vous imaginez comme on est déjà un grand enfant et il faut la dissocier de l'immaturité, de la maturité sociale autour de l'adolescence. Voilà pourquoi, quand on travaille sur l'enfance, on commence de zéro, voire avant, in utero, jusqu'à la puberté, où dans toutes les sociétés, globalement, les enfants deviennent des adultes.
Au sens social.
Voilà.
Au sens,
et c'est ça, en anthropologie, c'est très compliqué, parce que pour nous, ils restent encore immatures biologiques. Donc voilà, il y a un gap qui peut être un petit peu difficile à gérer.
Autour de cette archéologie de l'enfance.
Mais c'est vrai que pour ces tout-petits qui ressurgissent et qu'on trouve beaucoup dans les contextes funéraires, on a des grilles de lecture qui nous permettent de regarder tous les éléments de cette toute petite enfance, de cet âge vulnérable. On va retrouver même des porte-bébés préhistoriques avec des plumes dans les sépultures. Comme toujours, quand on cherche quelque chose, on le trouve. Et on a ce fameux biberon proto-historique et surtout gallo-romain en céramique qui a longtemps été une énigme. On a parlé de tirelet, on a parlé de biberon. On tend à l'identifier comme étant un objet proche du soin. Donc évidemment, on reste dans la petite enfance et la puériculture. Mais ce sont des objets dans lesquels les analyses nouvelles nous permettent de retrouver aussi bien du lait maternel que du lait de vache, que du vin. Donc des potions, une pharmacopée qui reste adossée aux soins, mais dans l'univers de la petite enfance, de cet âge où, dans les contextes funéraires, on va retrouver à la fois les enfants, les tout-petits, seuls, ou mort-nés avec leur maman, parfois, lorsque les femmes sont mortes en couche.
Mais vous les découvrez, enfin, enterrés ensemble et avec le plus grand soin. Oui. Ça aussi, c'est une étonnante découverte, si j'ose dire. Enfin, quand vous cherchez ça et vous le trouvez.
Une femme qui meurt en couche est souvent enterrée avec son petit. Parfois, il y a des femmes qui meurent au terme de leur grossesse. Donc, le fœtus est retrouvé dans le squelette. C'est vrai que ce sont des moments de fouilles qui sont assez particuliers, qui renvoient à ces drames de la mortalité infantile. On imagine très bien ce que pouvait être un accouchement dans toutes les périodes de la société. Et quoi qu'il arrive, ces sociétés, ces groupes ont toujours veillé à donner un statut funéraire particulier au petit qui est mort prématurément, qui n'a pas gravi les rites de passage, quels qu'ils soient. Ça peut être les premières dents, une coupe de cheveux, un baptême, ce qu'on veut. Quelque chose est raté, est interrompu dans le processus. Et quand une vie est précieuse et qu'on doit garantir la génération d'après, c'est un deuil. Et on n'hésite pas à parler de deuil périnatal, comme on le fait maintenant. C'est toujours un trauma pour les mamans, pour les couples, pour les familles, de perdre un enfant prématurément.
À toutes les époques, et malgré ce qu'on a longtemps cru, autour de la question, pourquoi un tel soin, finalement, apporté aux tout-petits par nos ancêtres, préhistoriques, proto-historiques, anciens, antiques. Je propose l'éclairage d'un chercheur assez iconoclaste et interdisciplinaire. C'est le biologiste, philosophe des sciences, linguiste et archéologue Nissim Hamzalag, spécialiste du Proche-Orient ancien. Il était notre invité la semaine dernière autour de son ouvrage « Les graines de l'eau ». De là, on l'écoute.
Bien avant, je pense que l'importance la plus grande quand on avait un enfant, c'est de se préoccuper qu'il arrive à l'âge adulte. Okay. Le gros problème n'était pas d'avoir des enfants. Par contre, à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était très important. Alors, et c'est pour ça que beaucoup de rites, beaucoup d'attention étaient données aux enfants, contrairement à ce qu'on croit. C'est que l'enfant, ce n'était pas une force de travail ou quelque chose qu'on peut utiliser. Au contraire, à mon avis, ce rapport est arrivé à partir du moment où la population a grandi énormément. Et donc, la vraie question n'était plus une question d'arriver à l'âge adulte, parce que bon, il y avait d'autres enfants, etc. Mais tant qu'on a dans des sociétés où il y a une rareté de la vie, une rareté de l'existence, une rareté de la population, alors du coup, la question de la vitalité, de maintenir la vitalité des enfants, et donc d'en prendre soin énormément, avec plein de rites, d'objets apotropaïques, etc., est la question la plus importante, et d'où le statut privilégié de l'enfant qu'il y avait à cette époque-là.
Partager cette analyse, Valérie Delattre.
Pleinement, sachant aussi qu'il y a un désir d'enfant, une maîtrise parfois de la fécondité.
Et l'enfant, ça, vous voulez le retrouver bien sûr, archéologiquement. Maîtrise des naissances.
Bien sûr, le fait que l'allaitement soit, le sevrage soit différé et soit autour de parfois 4 ou 5 ans, ce qu'on voit sur les dents qui se comportent comme des arbres avec des cernes, et on peut voir le passage de l'alimentation avec le lait maternel à une alimentation plus solide ou partagée. On s'aperçoit que les femmes de très longue date savent qu'en reculant l'allaitement au maximum, on évite d'avoir un petit frère ou une petite sœur très, 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 très rapidement. Cette maîtrise, elle existe. Les façons de ne pas tomber enceinte, les éponges vinaigrées, etc. Les femmes gèrent leur fécondité, savent, se transmettent. Donc, il faut en revenir à cette idée de un enfant qui meurt, on en refait un l'année d'après. À chaque enfant qui meurt, c'est un chagrin, c'est une souffrance, on le voit dans les tombes.
Parce que vous travaillez sur les tombes et les sépultures et vous décrivez aussi parfois des tombes d'enfants enterrés avec leurs jouets.
Oui. Alors, il y a des tombes avec ce qu'on appelle des gestes ultimes maternels. Par exemple, c'est des objets d'adultes qui sont déposés, des colliers de perles à l'époque mérovingienne. Le lieu d'inhumation, les enfants non intégrés au groupe, quel que soit le rituel d'intégration, peuvent être dissociés de la nécropole et enterrés le long de certains chemins, dans des sanctuaires particuliers, etc., parce qu'ils sont placés sous des forces particulières. Et Olivier a travaillé plus sur les jouets, je te laisse.
Les jouets, alors c'est vrai qu'on retrouve des jouets dès le...
Depuis probablement la plus haute antiquité, si je puis dire, et même c'est peut-être ça. Même avant l'antiquité, il est probable que tous les enfants aient toujours joué avec.
C'était voilà, décrivez-nous un jouet préhistorique qui vous aurait marqué.
Préhistorique.
Ou antique. Voilà. Non, un jouet antique, pardon.
Préhistorique. Alors, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question-là, qui commencent à identifier un certain nombre d'objets préhistoriques comme ayant pu être des jouets d'enfants. Ça reste encore dans le milieu, très sujet à caution. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que c'est des jouets ? Ah, puis il peut y avoir une forme très symbolique aussi. On le sait pour l'Antiquité. Mm-hmm. Il y a des jouets qui ont une fonction de jouet, mais qui ont aussi une fonction symbolique, voire prophylactique dans certains sanctuaires. On en retrouve beaucoup dans les sanctuaires. Je pense en particulier aux miniatures. Alors, dans les tombes d'enfants, on va parfois trouver des miniatures. Les chercheurs, pendant longtemps, ont dit c'est normal, c'est des enfants, donc c'est des jouets d'enfants. Ce sont des miniatures qui vont, qui sont associées à l'enfant. Mais on les retrouve aussi dans des contextes de sanctuaires. Alors, est-ce que ce sont des enfants qui ont amené leurs jouets dans les sanctuaires ? Bonne question. Ou est-ce que ces objets ne revêtent pas, en fait, finalement, une autre dimension ?
Les accompagner dans l'au-delà.
Religieuse ou une religion. Ou symbolique, tout simplement. Donc ça, c'est des questions aujourd'hui que l'archéologie se pose, qu'elle s'est peut-être moins anciennement posée, parce qu'on dit, c'est des jouets d'enfants, c'est normal, c'est une tombe d'enfants, etc. Alors, c'est vrai que pour l'Antiquité, on va avoir là, par contre, des jouets. Alors, le grand exemple qu'on a pour l'Antiquité romaine, c'est Pompéi. On les a retrouvés. Ils sont là, ils sont en place. Alors, on a des jouets en terre cuite, on a des jouets en bois, on a des jouets de toute nature, en céramique, en métal, bien sûr. Ça, effectivement, on peut dire qu'on a pratiquement toute la collection de jouets qu'on connaît aujourd'hui, du hochet au petit chariot, en passant par la poupée.
Aux poupées mannequins.
En passant la poupée.
Il y avait des poupées mannequins, bien sûr, poupées Barbie, que Mattel ne renierait pas.
Etc. Alors, bien sûr, évidemment, tout ça, on va le retrouver. Par contre, on l'a moins pour les périodes, puisque tout ce qui est en matériaux périssables, vous le savez, disparaît, sauf quand c'est conservé dans des conditions particulières d'humidité ou de sol particulier, comme en Égypte, par exemple. Ça se conserve très, très bien, du fait du climat. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une grande disparité de connaissances en fonction des espaces. On va avoir, pour l'Égypte, on a beaucoup d'informations. On en a beaucoup moins pour nos régions septentrionales, parce qu'effectivement, les conditions de conservation ne sont pas aussi excellentes.
Et il n'y a pas que des jouets. Les enfants, de tout temps, ont fait des dessins. Et il faut dire que j'ai envie de m'arrêter. Qu'est-ce qui veut la décrire, Valérie, peut-être? La couverture de ce numéro pour une archéologie de l'enfance, des nouvelles de l'archéologie Paris, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, c'est un dessin d'enfant qu'on pourrait accrocher sur notre frigidaire ou sur les torchons.
C'est un dessin pour la fête des mères, trouve. C'était un dessin qui date du XIIe siècle. C'est un petit garçon qui s'appelle Onfim, qui vivait à Novgorod. Oui, il signait ses dessins, comme tous les petits-enfants. Et il a une douzaine d'années, entre 10 et 12 ans, d'après les pédopsychiatres qui ont travaillé sur ses dessins. Et il dessine à la fois des monsieur patates, et il dessine aussi des chevaliers. Il dessine des personnages avec des épées, avec des visages très, très stylisés, et puis des grandes mains avec des grands doigts, comme le font tous les enfants. Puis il dessine des petits abécédaires en cyrillique, parce que c'est un... Et ces dessins, il les a faits, j'imagine, le soir, après l'école, sur de l'écorce de bouleau.
De l'écorce de bouleau. Voilà pourquoi vous avez pu les retrouver.
Ça a été retrouvé parce que Novgorod a été submergé par des coulées de boue. Donc, il y a un milieu un petit peu humide qui a été conservé. Donc, on a retrouvé beaucoup d'objets en bois, dont une douzaine de dessins de ce petit Onfim. Ce sont des petits miracles de l'archéologie. Et c'est tellement touchant et tellement présent, puisque nous, on a l'habitude de retrouver les petits squelettes, les objets adossés aux sépultures. Et là, on est dans une espèce de faille spatio-temporelle où c'est ce petit est tellement notre petit, puisqu'on a vraiment des dessins de fête des mères qu'on pourrait mettre sur le frigo.
On pourrait même le mettre sur le frigo, si vous le voulez. Autour de la question que nous révèle l'archéologie de l'enfance, on va y revenir, bien sûr, pour le meilleur. Là, on était vraiment dans le meilleur, mais aussi pour le pire. On continue de s'interroger plus près de nous, sur le versant plus sombre, exhumé par l'archéologie, du côté des enfants esclaves, travailleurs forcés, voire bagnards, nés au mauvais endroit, au mauvais moment, nés quelque part. C'est le titre de cette bouleversante chanson de Maxime Le Forestier qu'on vous glisse entre les oreilles, revisitée par Joja et Lieutenant Nicholson sur RFI Né quelque part.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher.
Être né quelque part. Quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage.
Ils savoussent leur nid, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savoussent leurs œufs. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Nomine quoi, just quoi, qui quoi ça.
Part sur RFI autour de la question de l'archéologie de l'enfance en compagnie des archéologues Valérie Delattre et Olivier Blin. Il valait mieux ne pas naître pauvre au début de la révolution industrielle, Olivier Blin, car on fait un grand saut dans le temps, mais c'est une autre révélation, si j'ose dire, ou mise au jour de ce nouveau champ de recherche en archéologie de l'enfance. Si les enfants ont toujours beaucoup travaillé, si vous l'avez dit, ils ont été esclaves dans les mines, dans l'Antiquité aussi, c'est quand même la révolution industrielle qui va en faire, je ne sais pas comment dire autrement, des forçats en fait. Hein.
Oui, un outil de travail.
Un outil de travail.
Il faut être clair et net. Et alors ça a déjà été bien débroussaillé par les historiens de la période, hein, surtout d'ailleurs les anglo-saxons, avant d'ailleurs les Français, ou d'autres pays. Mais oui, c'est véritablement en fait un outil de travail dont, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas complètement estimé l'importance.
C'est ça, c'est, oui, c'est au niveau de l'importance. Ça a été révélé par des écrivains. On pense à Dickens, à Zola, à Victor Hugo.
Voilà.
Vous dites, vous m'avez dit en préparant cette émission, ça m'a quand même marqué, la révolution industrielle s'est faite sur le dos des enfants.
Oui, c'est un peu une image, bien sûr, mais je prendrai juste un exemple. En relisant, pour préparer l'émission ici, j'ai relu quelques statistiques du 19e siècle, entre 1850 et 1870, dans les filatures du nord de la France. Et ça, c'est très éclairant. L'enfant est très présent. Et surtout, on utilise beaucoup les enfants parce qu'ils ont des petites mains et ils peuvent passer des fils et faire des choses que les adultes ont plus de difficultés à le faire. On a des statistiques qui nous disent qu'il y a à peu près 1 055 000 ouvriers et ouvrières, bien évidemment, dans ces filatures. Et c'est déjà beaucoup.
C'est beaucoup.
Ouais, mais il y a énormément de filatures. Il n'y a pas un village où il n'y a pas une filature. Et ça s'est développé un petit peu partout en France. Hein. Il y a des régions dans lesquelles il y en a beaucoup. Et antérieurement, en Angleterre, encore pire. Eh bien, il y en avait. Et les statistiques, c'est des inventaires qui ont été faits à l'époque. Voilà. 93 000 enfants y travaillent.
Wow, 93
000 sur 1 million. Ce qui représente quelque chose d'absolument faramineux.
C'est énorme. On n'en a peut-être pas pris la mesure.
Non, voilà, c'est ce que je vous dis. On n'a pas forcément pris cette mesure de la présence. Et encore, là, il ne s'agit que des filatures. Mais je ne parle pas de tout ce qui relève de l'industrie métallique, les mines. Alors ça, évidemment, on revient dans les mines de charbon. Ça, on le sait. On en a des textes et on a là véritablement des traces. Et ça a duré encore jusqu'à très récemment, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas se faire d'illusions.
C'est ça. Voilà. Et à ce sujet, alors on l'a dit, beaucoup d'écrivains, et Zola en tête, et Dickens ou Hugo en ont parlé, mais à propos de cet esclavage dans les mines, on ne peut pas dire autrement, je propose tout de suite un extrait d'un excellent documentaire que Pierre Auger a consacré aux mineurs, s'appelle Les mineurs au 19e siècle, et parmi ces mineurs, vous l'avez dit, énormément de petits-enfants qui descendent eux aussi dans la mine.
Les enfants que Zola croise le long des galeries, ce sont des galibots, qui signifient polissons en patois du Nord. Les enfants qui ont pu descendre très jeunes au fond des puits, parfois dès l'âge de 7 ans. Attelés aux chariots remplis de charbon, dans des galeries étroites, ils devaient traîner ou pousser le précieux minerai. C'étaient les jeunes galibots qui devaient porter les paniers de charbon tout au long des échelles de plusieurs centaines de mètres qui remontaient vers la surface. Progressivement, les lois vont interdire l'exploitation d'enfants si jeunes au fond des mines. Il faut avoir 8 ans au minimum en 1813, 10 ans en 1848, puis 12 ans en 1874.
Olivier Blin, sur le statut de ces enfants mineurs, alors à tous les sens du terme, ouais, et totalement surexploités.
Mineurs, mineurs, ouais, dans les deux sens du terme, oui, c'est tout à ça. Fait. Mais, et alors, il y a deux choses qu'il faut bien voir, c'est qu'en plus, ces enfants faisaient quasiment, pour la plupart, un travail d'adulte, mais évidemment, n'étaient pas payés comme les
c'est
adultes.
Ça. Donc, l'exploitation ça veut dire
que,
maximale.
Voilà, donc quand je disais tout à l'heure qu'effectivement, la révolution industrielle s'est un peu faite sur le dos des enfants, elle s'est faite sur le dos des enfants à double sens, économiquement aussi, bien sûr, hein, et pas seulement par leur exploitation. Et puis, il y a même presque un paradoxe secondaire. On a des textes pour l'époque médiévale. Et ça, c'est très intéressant. On a des textes de contrats pour l'époque médiévale. On a des contrats dans lesquels, effectivement, les enfants sont contractuels. Mais dans toutes ces mines, les enfants ne sont pas contractuels. On l'a oublié, ça. Les adultes sont employés, mais les enfants n'ont pas de contrat de travail. Parce que ce sont des enfants.
Ce qui veut dire aussi qu'il y a une régression, en tout cas, quand on est pauvre au 18e, 19e siècle, que ce soit en Angleterre, au moment de la révolution, oui, industrielle, oui, il y a une vraie régression pour les enfants.
Oui, c'est une vraie régression. Ça veut aussi dire qu'il y a énormément d'enfants et qu'il y a une classe populaire aussi qui permet d'alimenter aussi, bien évidemment, toute cette industrie, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans de l'exploitation à tous les sens du terme, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, cet éclairage, en fait, bon, qui est surtout apporté par les historiens, parce que alors là, l'archéologie est très silencieuse là-dessus.
Sauf, parce qu'il faut trouver des traces.
Voilà, parce qu'il faut trouver des traces. Alors, on les a dans certains cas. On les a dans la métallurgie, où là, par exemple, alors il y a une fouille qui a été menée il y a quelques années en Lorraine, sur un site de moulins qui produisait de forges, en fait, tout simplement, qui produisait du métal et qui travaillait le métal. Et là, on a trouvé l'alignement des bancs. Alors, les bancs pour les adultes et juste à côté, les bancs pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants étaient au même titre que les adultes sur la même chaîne de travail, mais on avait simplement adapté le poste de travail pour qu'ils puissent faire le travail des adultes au même titre que les adultes. Donc, ça, c'est des apports archéologiques qui sont intéressants parce que ça nous montre effectivement cette interaction
c'est
complète,
ça.
En fait.
Et cette omniprésence de l'enfant. Dans les usines. Et dans les mines. Et du coup, là où l'archéologie peut aussi montrer des choses, c'est au bagne. Parce qu'il y a des bagnes d'enfants.
Sûr,
et dans les bagnes, il y a des traces.
Alors là, par contre, on a les traces, on a les bâtiments, la plupart du temps, qui sont conservés. On a les graffitis sur les murs. Ça fait partie d'une archéologie qu'on appelle l'archéologie du bâti, où effectivement, on a des spécialistes ou des collègues qui viennent effectivement relever toutes ces informations et qui nous renseignent en fait sur les noms des enfants, par exemple, ou les durées d'enfermement. Alors on a les bagnes et puis on a les maisons de correction aussi. Également, dans lesquels on a beaucoup d'informations.
Alors ça, c'est encore autre chose, c'est pas tout à fait des prisons.
Non.
Ces maisons de correction, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est compliqué pour les archéologues de travailler sur ces maisons de correction. Ça a duré jusque dans les années 1930. La preuve tout de suite avec un extrait du film « Les hauts murs » de Christian Faure, qui est inspiré lui-même du roman autobiographique d'Auguste Le Breton et de son enfance dans une maison de correction dans les années 30. Extrait du film.
Comment tu t'appelles ?
Yves Tréguier, monsieur.
Ici, on dit pas monsieur, mais chef.
Allez en pavé, ta connard !
Vous voulez faire les fortes têtes ? Vous voulez faire les marioles ?
De toute façon, moi, je vais pas traîner ici. Je fous le camp.
Pas de conneries, parce que quand essayer, ils sont pas allés bien loin.
Mélina, il est complètement sanglé, non ? Ah, c'est un salopard.
Mais pas ça !
Il essaie de se farcir tous les nouveaux.
Faudra que t'y passes et je te jure que t'y passeras.
Laisse tomber, Angelo, il t'a dit non.
Mando, c'est un chouette type. Habille au couteau en plus. Et t'as jamais essayé de te parler d'ici ?
Pour aller où ?
En Amérique.
Vous savez où vous finirez, hein ? Moi, je vais vous le dire. Au bagne. On ne peut rien faire pour vous.
Ramassis d'ordures.
Aucun gosse ne vient au monde méchant. Et s'ils sont tarés ou anormaux, ils relèvent de l'autorité médicale et non des colonies pénitentiaires. Pour les autres, la responsabilité en incombe aux parents quand ils existent. Oui, aux parents qui ne veulent pas se charger de leurs enfants, aux parents qui ne cherchent pas à les élever et préfèrent les voir enfermés. De quel droit l'éducation. L'État laisse-t-il brutaliser les enfants ?
Terrible question qui se posait encore jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, qui se pose toujours dans le monde entier.
Oui, même après, d'ailleurs, même après la Seconde Guerre mondiale.
Même après la Seconde Guerre mondiale.
Jusque dans les années 50, entre les années 50 et 60, les dernières maisons de correction ont été... mise en œuvre, enfin continuait d'être utilisé. Donc, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut voir aussi que certaines de ces maisons de correction n'étaient pas simplement un enfermement de l'enfant pour le remettre dans le droit chemin, entre guillemets, mais aussi ont été presque des bagnes, dans le sens où ils étaient amenés aussi à travailler. Donc on les exploitait également, et là gratuitement par contre, dans le cadre de l'enfermement. Donc c'est vrai que ces situations, alors elles sont valables pour la France, mais elles sont valables aussi pour de bien, bien nombreux autres pays. Hein. Il n'y a pas que la France qui a mis en place ce genre de...
Et elles sont malheureusement, alors ce n'est pas le fait d'archéologues de travailler là-dessus, elles sont malheureusement toujours d'actualité. Il y a des enfants esclaves, il y a des enfants au travail, il y a des enfants en prison maltraités dans le monde entier. Mais en même temps, cette archéologie de l'enfance permet de mettre au jour aussi, je me retourne vers vous Valérie Delatte, cette espèce de paradoxe que finalement il n'y a évidemment pas une enfant, c'est que tout dépend aussi du milieu social dans lequel on est, j'imagine aux époques reculées comme aujourd'hui, mais qu'il y a donc un intérêt à se pencher sur et à faire l'archéologie de l'enfance, des plus faibles, des plus démunis, des dépendants, c'est quand même ça aussi.
Bien sûr, c'est toujours un curseur de lecture des sociétés, hein, selon que vous soyez riche ou miséreux, c'est toujours pareil. Le petit enfant des classes privilégiées aura forcément des conditions de vie, un itinéraire beaucoup plus facilité que dans des milieux ruraux ou dans des milieux industriels plus tard. Et on a l'impression en fait qu'il y a toutes les forces vives sont mises au profit de la petite enfance pour lancer sur la vie. Et qu'à partir de 7-8 ans, quand toutes les étapes sont franchies, que cet enfant devient un petit adulte, il y a une espèce de raccourcissement du temps et après des âges sombres semblent se profiler. Il y a une vraie hiatus entre la petite et toute petite enfance.
Ah oui, de grands soins à porter petite
Exactement.
Et toute petite
enfance. Exactement. Voilà, on doit faire des adultes, donc on sait les risques, y compris les risques domestiques, dans la maison, près du feu, etc. Donc il y a une surprotection qu'on lit archéologiquement. Et puis après, c'est des petits adultes, et des petits adultes aussi, dont on peut prendre soin, bien évidemment, puisqu'on fait le lien avec petite enfance et grand âge, à l'autre bout. Ce sont des archéologies qui sont pertinentes et pleines de sens.
On va y venir à ce lien entre toutes ces archéologies, finalement, des petits et des grands âges. Mais je vous propose avant, enfin, je ne résiste pas plutôt à vous passer un petit message qu'une autre archéologue devenue passeuse de sciences et écrivaine nous a laissé pour vous. On écoute Jennifer Kerner.
Chère Valérie, moi je voulais vous remercier de rendre visibles des individus qui ont été importants pour les sociétés dans le passé et qui ont été malheureusement un petit peu invisibilisés des traces historiques. Et grâce aux fouilles, vous arrivez à leur redonner vie et à leur redonner toute leur dimension humaine et sociétale. Donc merci pour ça.
Un merci qu'on peut partager entre vous deux, hein,
Exactement.
Olivier.
Oui.
Je ne suis pas anthropologue, donc je ne touche pas aux petits-enfants dans les tombes, c'est Valérie qui s'en occupe.
Voilà, mais c'est vrai, Valérie, que ça fait partie de votre démarche. J'avais beaucoup travaillé sur l'archéologie du handicap, l'archéologie du soin. Pourquoi finalement, aujourd'hui, on a aussi des moyens de révéler qu'il y a des biberons, il y a des traces de lait, des moyens techniques et des techniques scientifiques qui le permettent. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut finalement porter ce regard-là sur les invisibles et que des archéologues comme vous le font?
On peut et on veut surtout
faire.
C'est parce qu'on a envie de s'interroger sur nos propres comportements et nos façons de concevoir la vulnérabilité. On est très, très questionnés dans nos sociétés par... on a vu le grand âge pendant le Covid, comment on a traité les personnes âgées, comment on traite les tout-petits, la petite enfance, la périnatalité, voire même l'avortement. C'est une journée importante aujourd'hui, je crois. Ces questionnements qui sont les nôtres peuvent être documentés par le passé. Moi, je suis très passionnée par les invisibles et par la vulnérabilité. Donc forcément, après les soins, la santé, le handicap... les âges extrêmes, cette petite enfance fragile et ce grand âge dépendant deviennent des vrais champs de recherche pour l'archéologie.
Et on va y revenir parce que vous allez effectivement en trouver des traces qui nous disent des choses, qui nous révèlent des choses. Olivier Blin, vous êtes vous aussi très engagé à faire remonter ces invisibles, ces vies de peu, et puis par exemple ces vies d'enfants qui ont porté cette révolution industrielle vraiment pour le pire.
Oui, là. Voilà. Plus globalement, c'est le travail de l'archéologue. C'est le travail de l'archéologue de faire, de révéler en fait finalement cette invisibilité des sociétés.
C'est vrai, mais on s'est beaucoup attaché aux puissants, ou à ce qu'on trouvait, ce qui est peut-être plus facile à trouver.
Bien sûr, mais faut pas oublier quand même que depuis un certain nombre d'années, sans doute probablement avec le développement aussi de l'archéologie préventive un peu partout, pas seulement en France d'ailleurs, cet éclairage a changé. On travaille beaucoup sur la société, sur les sociétés, et on essaye d'aborder au plus près en fait ces sociétés du passé, passé qui peut être très récent. Comme on vient de le voir, et on a des collègues maintenant qui travaillent sur l'archéologie contemporaine, donc vous voyez, et même pour des périodes très récentes, le début, voire jusqu'au milieu et la fin du 20e siècle pour certains. Donc l'archéologie, le champ de l'archéologie se déplace, plus on avance dans le temps, évidemment, plus le passé avance lui aussi, forcément, donc automatiquement, des choses qui pourraient à un certain moment ne pas appartenir au champ de recherche rentrent dans le champ de recherche, donc on commence à se poser des questions. Et pour répondre à votre question, oui, cette dimension, alors comme l'a dit très très bien tout à l'heure Valérie, finalement on trouve ce qu'on cherche, voilà. Et donc si on commence à s'intéresser à ces périodes, si on commence à s'intéresser à l'archéologie industrielle, jusqu'à présent on s'y est intéressé d'un point de vue technique surtout beaucoup. On a regardé les usines, on a regardé les lieux de production, on a travaillé sur l'économie, on a fait énormément de travaux sur les populations et sur la démographie. On a peut-être aussi un peu oublié cet entre guillemets outil de travail dont je parlais tout à l'heure, qui est l'humain en fait, tout simplement.
Enfin, c'est l'humain en général et les enfants en particulier.
Et on a beaucoup parlé des mineurs, mais on oublie effectivement, comme votre reportage le montre, la présence des enfants dans les mines, alors qui peut-être, en tout cas dans les mines de charbon, n'avaient peut-être pas forcément la même fonction que les adultes. On est là peut-être différent des mines de Hallstatt dont on parlait tout à l'heure, ou d'autres cas de figure. Il y a des exemples en Égypte de mines dans lesquelles, alors là c'est des carrières de pierre carrément. Il s'agit plus forcément de mines, il s'agit de carrières de pierre, mais il y a aussi des mines d'argent et des mines d'étain ou des choses plus spécifiques dans lesquelles, là par contre, on a l'avantage, c'est qu'on a les nécropoles. Donc on sait que 99% de la population qui y travaillait étaient des enfants.
Dans ces mines, dans l'Antiquité.
Dans l'Antiquité, dans l'Antiquité égyptienne. Donc on sait que ce sont des enfants qui sont au travail quasiment à 100% dans ces lieux. Donc ce qui veut dire que là, on a un autre éclairage. Alors est-ce que ce sont des esclaves ? Bonne question. Très probablement, on peut le supposer. Alors, dans certains cas, sur certains sites, on a encore les enfants avec leurs entraves. On peut se douter qu'il s'agit d'esclaves. Mais finalement, c'est des questions qui sont posées à l'archéologie de manière plus globale. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, déjà, cette situation. Et puis, en même temps, c'est là où cette dimension d'invisibilité a du sens, parce que jusqu'à présent, on était resté de manière un peu superficielle sur toute cette approche. Et là, on rentre effectivement dans des choses beaucoup plus spécifiques.
Et on trouve ce qu'on cherche, et quand on cherche et qu'on fait de l'archéologie de l'enfance, on trouve des révélations. Nous sommes en compagnie de Valérie Delattre et d'Olivier Blin, et nous continuons nous interroger à la fois sur le soin porté aux tout petits, aux plus vulnérables, aux plus dépendants. Et si d'ailleurs c'était ça, la vraie force, la vraie puissance de notre humanité, ça c'est à méditer. En écoutant maintenant Lynn dans la playlist du mois sur RFI, est-ce que c'est par là qu'on pleure ?
J'ai déjà ce qu'il faut. dont elle avait besoin. C'était du réconfort. Elle laisse sa main augmenter le volume et le met trop fort. Seule dans sa tête, accompagnée dans son bolide. Le doute s'installe. D'une force tient son collier. Naïve, elle pensait que ses nerfs étaient solides. Mais très vite, la tristesse laisse place à la folie.
Lynn, dans la playlist du mois sur RFI, est-ce que c'est par là qu'on pleure? Autour de la question, pourquoi une archéologie de l'enfance, regard croisé de nos invités, les archéologues de l'INRAP, Valérie Delarc, de Lattre, qui est archéo-anthropologue, et Olivier Blin, tous deux très engagés pour faire l'archéologie, au fond, des invisibles. Et cette fois-ci, l'archéologie de l'enfance, pour une archéologie de l'enfance. C'est le titre de ce numéro de la revue Les Nouvelles de l'archéologie que vous avez dirigé tous les deux. Et autour de la question, pourquoi faire cet éloge des invisibles? Vous nous avez dit, Valérie de Lattre, que, au fond, c'est aussi l'éloge des ceux qui sont dépendants aux deux bouts de la chaîne de la vie, aux deux âges de la vie. Alors écoutez voir ce joli éclairage de Gédia Souto. Elle est maîtresse de conférences en littérature, histoire de l'art et patrimoine africain à l'université Sorbonne Nouvelle et elle nous renvoie au pour les deux âges de la vie chez les Fang du Gabon. On l'écoute.
Je ne peux pas m'empêcher de penser aux Ebéti au Gabon, ces figures funéraires qui étaient posées autrefois chez les Fang au-dessus de la boîte où on gardait les ossements. Et c'est une statue qui représente un ancêtre. Et l'ancêtre, il a la forme d'un enfant. Et on dit souvent que le dernier mort est en fait le premier-né. S'intéresser à l'enfant, c'est en quelque sorte s'intéresser à une histoire qui est transmise de génération en génération.
C'est un peu ça, Valérie Delattre.
Ah oui, ça parle beaucoup. C'est une histoire des vieilles âmes, comme s'il y avait une espèce de transmission et des intercesseurs. Effectivement, dans les sociétés les plus anciennes, on s'aperçoit qu'il y a un lien très très fort entre le nouveau-né et le très très ancien du groupe d'appartenance. Et donc travailler sur les soins, sur la vulnérabilité, c'est forcément faire le grand écart entre ceux qui naissent et ceux qui vont mourir. Et ben, quand on est anthropologue, on trouve les deux et on les intègre pleinement à nos considérations.
Et d'ailleurs, vous m'avez dit que vous avez des projets de recherche. Donc, continuez évidemment cette archéologie de l'enfance, mais aussi un projet de recherche pour une archéologie, justement, quoi, du grand âge.
Voilà, pas du troisième âge, ce serait un peu un néologisme. Ouais. C'est une évidence. On a travaillé beaucoup au sein de la programmation scientifique nationale sur cette archéologie des soins et de la santé qui prend en charge le handicap, les pandémies. On a une archéologie très, très nourrie et passionnante des pandémies de peste, etc. Et à l'évidence, considérer la toute petite enfance renvoyait de facto au grand âge. Et c'est une archéologie qui est pleine d'objectifs, qui est très peu documentée, qui est simplement quelques statistiques, parfois des tours d'une abbaye. On se dit, oh, les moines ont vécu longtemps, ou là, de 70 ans, ce sont des statistiques. Et on retrouve que c'est normal. Mais comment on s'occupait des très anciens, s'en occupait-on? On ne sait pas, on parle parfois de gérontocide, je ne sais pas. Et c'est vraiment un champ d'action, un champ de recherche.
Et qui nous renvoie, c'est aussi un éclairage sur ce qu'on vit aujourd'hui. Forcément. Et sur nous-mêmes. Comment nous occupons-nous des plus faibles et des plus vulnérables?
Bien sûr, mais l'archéologie est un éclairage, c'est pas du militantisme.
Non, c'est
mais c'est un éclairage sur nous, sur nos questionnements et sur nos façons de répondre à des grands universaux.
Et aux questionnements qui sont les mêmes. Enfin, d'hier
toujours,
à aujourd'hui, ce
forcément,
sont les mêmes questions.
Bien sûr.
Olivier Blin, vous m'avez parlé aussi de nouvelles formes d'archéologie, notamment autour de la détention, oui, par exemple.
Oui, ben voilà, ben ça va.
On évoquait les bagnes d'enfants.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors, elle va poser des questions un peu plus larges, évidemment. Ben. Pas s'intéresser seulement aux enfants, on va s'intéresser aux lieux de détention, que ce soit des lieux de coercition ou une détention volontaire, par exemple, quand on va s'enfermer dans un couvent ou quand on va s'enfermer dans un prieuré. Là, c'est une démarche qui peut être volontaire. Et qu'est-ce que l'archéologie nous dit, en fait, de ces lieux ou les hôpitaux psychiatriques, par exemple, hein, les prisons, au sens large, pas seulement les prisons ni les bagnes d'enfants, mais les prisons pour adultes, par exemple, hein, et pour lesquelles, aujourd'hui, une archéologie nous nouvelle archéologie en fait se développe hein, pour apporter justement répondre à des questions qui sont des questions sociétales. Et vous évoquiez tout à l'heure aussi l'existence de plus en plus de capacités dont dispose l'archéologie avec de
l'analyse,
avec des analyses, avec des les analyses moléculaires, biomoléculaires. Enfin, on a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 10 ans. Valérie le sait bien, en particulier avec ce qui peut être fait sur l'ADN pour les questions justement de santé, pour les épidémies. Voilà, on a des capacités aujourd'hui pour rentrer dans la matière véritablement, ce qui était peut-être moins possible il y a ne serait-ce que quelques années. Et là, aujourd'hui, c'est une foule de réponses qui est apportée. Et cet aspect-là, en fait, c'est très, très nouveau. Et cette archéologie ou ces archéologies qui sont en train d'émerger sont des archéologies qui prennent pied aussi grâce à l'ensemble de ces capacités qui sont nouvelles et qui nous offrent, comme tu le disais, Valérie, un nouveau regard, en fait, sur le passé et sur le présent aussi, bien sûr.
Un nouveau regard sur le passé et sur le présent. On arrive à la fin de cette émission. Donc, c'est quoi ? C'est un dernier mot à chacun et à chacune, peut-être, sur, je ne sais pas, un moment, une découverte, quelque chose qui vous a peut-être le plus touché. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de temps.
Moi, je disais tout à l'heure, voilà, on parlait des graffitis, des dessins d'enfants. Il y a une belle découverte qui a eu lieu récemment sur une villa gallo-romaine au Luxembourg, dans laquelle on a trouvé à hauteur de lit d'enfant, des petites représentations gravées sur les fresques murales de gladiateurs en train de combattre. Et on fait visiblement des dessins d'enfants.
Évidemment.
C'est pas des adultes qui font ça.
Évidemment.
Donc voilà, là aussi, on est un peu dans le même cas que ce que
là,
Valérie soulevait.
Et on est tout proche de ces enfants-là qui dessinaient des gladiateurs au pied de
l'île. Et en plus, on a l'information sur la hauteur des lits, ce qui encore est mieux, parce que ça, c'est des infos qu'on a rarement.
Ça, c'est l'archéologue qui parle. Valérie, pour
moi, très rapidement, je reste très touchée par les modalités d'inhumation des tout-petits, morts autour de la naissance, et les forces incroyables que les parents ont déployées pour surinvestir dans ces inhumations petites, ténues, qu'on retrouve difficilement. Et on voit vraiment qu'il y a une intentionnalité, une douleur, une souffrance, un deuil. Et ça nous renvoie à ce pourquoi on fait les choses. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille dans le funéraire, on est toujours au plus près des douleurs des uns et des autres. Donc c'est à nous de prendre du recul, de faire de la science, mais de ne pas s'affranchir complètement de ces moments d'émotion.
De se laisser toucher par
exactement.
La mort de ces tout petits qui touchaient.
Et de se dire que l'archéologie les réhabilite.
Oui, c'est un peu ça.
Merci à tous les deux. Un grand merci de réhabiliter justement tous ces invisibles et tous ces autres. Nous étions autour de ce numéro de juin 2023 des Nouvelles de l'archéologie paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme pour une archéologie de l'enfance. On ne vous dira jamais assez. Merci Olivier Blin et Valérie Delattre.
Merci.
Et vous revenez quand vous voulez pour continuer cette archéologie des invisibles. On en a besoin.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour nous mettre dans la tête d'un oiseau, carrément. Histoire de nous familiariser avec d'autres formes d'intelligence absolument stupéfiantes, notamment celle des corneilles, qui n'ont pas grand-chose à nous envier. Comme nous découvrirons demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci de garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, bientôt les infos.